Ça suppose donc, en se retirant d'un certain nombre de liens, ça suppose de tisser de nouveaux liens, de nouveaux partenariats avec les humains et les non-humains. Donc, chez Sylvie Barbe, cette idée de par-delà nature et culture, donc de dépasser la pensée dualiste, le grand partage entre humains et non-humains, ce n'est pas que de la théorie, c'est quelque chose qu'elle vit réellement. Il y a dans son mode de vie même une... Alors, en le disant comme ça, peut-être que ça peut paraître un peu farfelu ou imaginaire ou hippie, mais en l'ayant côtoyé, et en plus, moi, c'est vraiment une espèce d'esprit critique qui m'amène à chercher la petite bête, mais je peux certifier que chez elle, c'est d'une authenticité qui est bouleversante, en fait. On voit que en vivant sur son terrain toute l'année, elle a développé des formes de partenariat et de communication qui me restent un peu mystérieux, mais qui sont très authentiques, avec les arbres, les oiseaux, les plantes, les différents animaux qui peuplent son terrain. Et que tout ce grand partage naturaliste, voilà, que Descola a théorisé, mais bon, beaucoup d'auteurs, et dont aujourd'hui beaucoup de penseurs cherchent à comprendre comment on le dépasse, comment on fait pour arrêter d'être naturaliste, etc. Voilà, chez elle, par la pratique de ce mode de vie dans la nature, où elle tisse en permanence donc des liens avec les êtres naturels qui habitent son terrain, mais aussi avec les tissus, les couleurs, les fils, les bouts de bois. On voit qu'il y a une forme de partenariat, d'interaction qui dépasse largement nos interactions sociales habituelles. Elle interagit donc avec une grande multiplicité d'êtres que nous, on a tendance à séparer. Autre principe de son existence, la décroissance et l'équité. Donc là, je cite Maria Miss, donc une sociologue écoféministe allemande qui a écrit notamment Écoféminisme avec Vandana Shiva, et que Sylvie Barbe a beaucoup lu et dont elle reprend, enfin, dont elle essaye d'appliquer la pensée. Personne ne devrait pouvoir se soustraire, grâce à son argent, au travail de production des biens nécessaires à la vie. Ce n'est qu'en effectuant par soi-même les tâches requises pour la production et la préservation de la vie que l'on devient capable de transcender l'exploitation capitaliste patriarcale. Donc, de fait, voilà, là aussi, ce qui est intéressant chez Sylvie Barbe, c'est que ça ne reste pas un mot d'ordre, mais un choix de vie. Si la croissance et le capitalisme patriarcal reposent sur l'exploitation, Sylvie Barbe a du coup choisi d'être ce qu'elle appelle objectrice de croissance, pardon, et donc, comme je l'ai dit, de se passer d'un certain nombre d'objets qui symbolisent pour nous le progrès, le développement, la croissance, etc. Ce qui signifie que, donc pendant la semaine que j'ai passée chez elle, c'était une semaine où elle accueillait un groupe de femmes, on était 7 ou 8, de façon gratuite sur son terrain. Donc, c'était pas, en ce moment, il y a beaucoup de stages de femmes payants. Donc, chez elle, voilà, nous étions accueillis pendant une semaine. Et il s'agissait donc de réussir à vivre en communauté avec des gens qu'on ne connaissait pas d'une façon décroissante et équitable, donc en se passant de ce qu'on utilise d'habitude dans notre quotidien. Donc dès le premier jour, on a effectué une répartition des tâches, donc en désignant des gardiennes de l'eau, gardiennes du feu, gardiennes des bobos, gardiennes du temps, etc., souvent en binôme. Et donc, pour la création d'une sorte de groupe un peu mythique, donc avec ces noms de gardienne du feu, gardienne du temps. Et on voit que cet établissement de règles, ça montre que si l'écoféminisme défend des idéaux politiques anarchistes, il ne défend pas du tout une forme d'anomie. Et qu'au contraire, ce qui permet de vivre de façon anarchiste, donc en l'absence de rapport de pouvoir, en l'absence de rapport hiérarchique, c'est au contraire l'établissement de règles concertées dès le début. Donc là, tout était mis en œuvre pour que le groupe fonctionne de façon circulaire en essayant de casser les logiques de domination, de casser les inégalités ordinaires. Ce qui signifie que chacune est obligée de jouer tous les rôles dont elle se préserve parfois dans la vie habituelle. Donc, cette contrainte, en fait, c'est une contrainte qui oblige à apprendre voilà, en une semaine, voilà, je ne sais toujours pas fabriquer une yourte, mais ça oblige à apprendre un certain nombre de savoir-faire qu'on doit acquérir concrètement si on veut que ces mots d'ordre de décroissance sortie du capitalisme patriarcal ne soient pas que la pensée. Vandana Shiva dit, voilà, l'essentiel, c'est réapprendre à se servir de ses mains. On ne peut pas dire que le système scolaire nous y prépare particulièrement. Mais voilà, apprendre à se servir de ses mains, apprendre à satisfaire nos besoins basiques, ça fait complètement partie de ce qui, pour Sylvie Barbe, et au-delà, en fait, est indispensable si on veut que cette histoire de transition écologique, ça ne reste pas que du vent et des mots qu'on dit parce qu'on trouve que ça fait plaisir d'en parler, mais que ça puisse voilà, s'incarner. Autre caractéristique du mode de vie de Sylvie Barbe, elle pratique une forme de spiritualité de la Terre, alors qu'elle ne nous a pas du tout imposé pendant le séjour où nous étions là-bas. Mais il y a vraiment une manière chez elle de développer un sentiment d'appartenance au cosmos qui se concrétise par des pratiques rituelles, par des pratiques spirituelles, des formes de méditation individuelle ou collective, par une manière de vivre en fonction des rythmes naturels. Donc concrètement, voilà, l'été, de fait, quand on vit sur un bout de forêt, on ne peut pas du tout vivre de la même façon l'été, l'automne, l'hiver. Donc ça oblige. Donc ce n'est pas une spiritualité juste où on se perche dans une sorte de contemplation du cosmos, mais c'est aussi très concret, c'est une observation de ce qui se passe autour de soi à tel moment, à telle saison, à telle heure, et un ajustement permanent au rythme naturel. Donc, ce qui fait qu'elle est obligée de se concevoir comme un élément du cosmos, tout simplement pour pouvoir vivre, pour pouvoir agir. Cette appartenance au cosmos, au rythme cosmique, se célèbre voilà, à travers des passages cycliques, par exemple voilà, les solstices, les équinoxes, ou les pleines lunes, les nouvelles lunes. Ce sont des moments où sa pratique spirituelle ou rituelle, si ça prend des formes collectives, sont particulièrement importantes. Et pendant la durée du séjour, donc comme je l'ai dit, elle ne nous a pas imposé une quelconque pratique spirituelle, mais elle nous a imposé beaucoup de moments de silence. Il y a beaucoup de moments pendant des activités collectives qu'on faisait, ou des balades, où en fait on n'avait pas le droit de discuter entre nous, ou bien si on parlait, ça devait forcément être de ce qui se passait ici et maintenant, ce qui force aussi à une forme de contemplation, qui est donc le premier pas pour réussir à défaire un certain nombre de liens automatiques dans notre pensée pour pouvoir en recréer d'autres. Et cette spiritualité de la Terre, de jouer la spiritualité de la Terre-Mère contre la religion de Dieu le Père, ça fait partie intégrante de pas tous les courants écoféministes, hein, certains sont tout à fait athées, mais un certain nombre de courants écoféministes considèrent que ça fait partie du changement intérieur qui serait porteur d'un changement de civilisation, notamment de réintégrer la mort au sein de la vie, plutôt que d'être dans une négation de la mort qui peut poussé vers une sorte de fantasme un peu transhumaniste, d'échapper aux limites du corps, d'échapper à la mort, au vieillissement, à tout ce qui fait notre condition incarnée.